Chapitre 80. Ô toi qui tournes ton visage vers Dieu, j'ai bien reçu ta lettre m'informant de ton désir de servir les pauvres. Que peut-on souhaiter de meilleur? Les âmes qui appartiennent au royaume n'ont de cesse qu'elles n'assistent les pauvres, ne sympathisent avec eux, ne manifestent de la bonté envers les miséreux et ne rendent leur vie féconde. Heureux sois-tu de nourrir une telle aspiration. Transmets en mon nom à tes deux enfants la bonté et l'amour les plus profonds. J'ai bien reçu leurs lettres, mais je n'ai pas le temps de leur écrire à présent séparément. Manifeste-leur de ma part la plus tendre bienveillance. Chapitre 81. Les âmes qui, au cours de la guerre, ont assisté les pauvres et travaillé à la mission de la Croix-Rouge sont acceptées au royaume de Dieu. Leur service leur confère la vie éternelle. Transmettez-leur ces bonnes nouvelles. Chapitre 82. Ô toi qui es ferme dans l'Alliance, ta lettre m'est bien parvenue. Tu as fait un grand effort pour ce prisonnier. Peut-être cet effort portera-t-il des fruits. Dis-lui néanmoins ce qui suit. Les habitants du monde sont confinés dans la prison de la nature. Une prison à la fois permanente et éternelle. Si tu es actuellement détenu à l'intérieur d'une prison temporaire, n'en sois pas affligé. Mon espoir est que tu puisses être délivré de la prison de la matière et accéder à la cour de vie éternelle. Prie ton Dieu nuit et jour, réclame sa miséricorde et son pardon. L'omnipotence divine résoudra chaque difficulté. Chapitre 83. Transmets au nom d'Abdul-Baha mes salutations à ton épouse respectée et dis « Il est extrêmement important de manifester de la bonté envers les prisonniers, de leur dispenser formation et éducation. Aussi, comme tu as fait un effort dans ce sens, que tu as éveillé quelques âmes et que, grâce à toi, elles ont tourné leur visage vers le divin royaume, cet acte digne de louange est éminemment acceptable. » Tu dois, à coup sûr, persévérer. Manifeste en mon nom la plus extrême bienveillance aux deux prisonniers de Saint-Quentin et dis-leur ce qui suit. Aux yeux des âmes avisées, cette prison est une école de formation et de développement. Vous devez lutter, cœurs et âmes, pour vous distinguer par votre caractère et votre savoir. Chapitre 84. Ô toi, chère servante de Dieu, j'ai bien reçu ta lettre et ai pris note de son contenu. Parmi les masses populaires, le mariage est un lien physique et cette union ne peut être que temporaire, puisqu'elle est condamnée d'avance, en dernier ressort, à une séparation physique. Parmi les disciples de Baha, en revanche, le mariage doit être à la fois une union du corps et de l'esprit, car ici, mari et femme sont tous deux enivrés du même vin. Tous deux sont amoureux du même visage incomparable. Tous deux vivent et agissent par le même esprit. Tous deux sont illuminés de la même gloire. Cette relation entre eux est d'ordre spirituel, et ainsi, c'est un lien qui demeurera à jamais. Ils jouissent de la même manière de liens solides et durables dans le monde physique. Car si le mariage repose à la fois sur l'esprit et sur le corps, cette union est véritable et pourra donc durer. Si toutefois le lien est physique et rien de plus, il ne sera assurément que provisoire et doit aboutir inexorablement à la séparation. Ainsi, lorsque des Bahaïs contractent le mariage, leur union doit être un véritable lien de parenté, une rencontre à la fois spirituelle et physique, afin qu'à tous les stades de leur vie et dans tous les mondes de Dieu, leur union puisse durer. Cette unité véritable est un rayon de l'amour divin. Aussi, lorsque des êtres deviennent de véritables croyants, ils parviendront à une relation spirituelle les uns avec les autres et témoigneront d'une tendresse qui n'est pas de ce monde. Ils exulteront tous d'une bouffée d'amour divin et leur union, cette relation, demeurera à jamais. Les âmes qui ensevelliront leur ego dans l'oubli, qui se dépouilleront des défauts de l'humanité et se libéreront de l'asservissement humain, seront sans nul doute illuminées des célestes splendeurs de l'unité et parviendront toutes à la véritable union dans le monde immortel. Chapitre 85. Quant à la question du mariage contracté selon la loi de Dieu, tu dois, en premier lieu, choisir un conjoint qui te plaise, et la question est ensuite soumise au consentement des parents. Ceux-ci n'ont aucun droit d'intervenir avant que tu fasses ton choix. Chapitre 86. Le mariage Bahaï est l'engagement de deux parties l'une envers l'autre et leur attachement mutuel sur le plan de l'esprit et du cœur. Chacun doit toutefois veiller avec le plus grand soin à se familiariser totalement avec le caractère de son futur conjoint, afin que le pacte qui les reliera soit un lieu qui demeure à jamais. Ils doivent avoir pour but de devenir de tendres compagnons, en harmonie l'un avec l'autre jusqu'à la fin des temps. Dans un vrai mariage Bahaï, le mari et la femme doivent être unis à la fois physiquement et spirituellement, afin de pouvoir améliorer toujours davantage leur vie spirituelle réciproque et jouir de l'éternelle unité à travers tous les mondes de Dieu. Tel est le mariage Bahaï. Chapitre 87. Ô toi, souvenir de celui qui mourut pour la beauté bénie. La joyeuse nouvelle de ton mariage avec cette feuille lumineuse nous est récemment parvenue, procurant une joie infinie au cœur du peuple de Dieu. Des prières de supplication ont été offertes en toute humilité devant le seuil sacré, afin que ce mariage soit pour les amis un signe de joie, un lien d'amour pour toute l'humanité, qu'ils produisent des bienfaits et des fruits éternels. La séparation est génératrice de maux et d'afflictions de toutes sortes, mais l'union des choses créées produit toujours les résultats les plus dignes de louange. Dans le monde d'existence, même l'accouplement des plus infimes particules est une manifestation de grâce et de générosité divine. Or, à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des particules, l'union devient plus importante. Gloire à celui qui a créé toutes choses par couple sur la terre, aussi bien les hommes eux-mêmes que tout ce qui dépasse leur compréhension et leur perception. Voir Coran 36:36. L'union entre les êtres humains est au-dessus de toutes les autres unions, en particulier lorsqu'elle se produit dans l'amour de Dieu. Ainsi se manifeste l'unité première. Ainsi est jeté le fondement de l'amour spirituel. Il est certain qu'un mariage comme le vôtre entraînera la révélation des bienfaits de Dieu. C'est pourquoi nous vous présentons nos félicitations et vous bénissons, priant la beauté bénie de faire de cette noce, par son assistance et sa faveur, un motif de joie pour tous et de la parer de l'harmonie céleste. Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ces deux brillantes lunes se sont mariées en ton amour, dans la servitude à ton seuil sacré, unies dans le service de ta cause. Fais de ce mariage un filet de lumière provenant de ta grâce abondante, ô mon Seigneur, le très miséricordieux, et un rayon lumineux de tes faveurs, ô toi, le bienfaisant, l'éternel dispensateur. Que de ce grand arbre naissent des bourgeons qui verdiront et prospéreront par les dons qui pleuvent de tes nuages de grâce. En vérité, tu es le généreux, en vérité, tu es le tout-puissant, en vérité, tu es le compatissant, le très miséricordieux. Chapitre 88. Ô vous, mes deux enfants bien-aimés, dès qu'elle m'est parvenue, la nouvelle de votre union m'a rempli d'une joie et d'une gratitude infinies. Dieu soit loué, ces deux fidèles oiseaux ont cherché refuge dans un seul et même nid. Je supplie Dieu de les rendre capables de fonder une famille honorée, car l'importance du mariage réside dans la création d'une famille abondamment bénie. Afin que chacun des membres puisse, dans une joie pleine et entière, illuminer le monde, tel des cierges. L'illumination du monde dépend de l'homme. Si l'homme n'existait pas en ce monde, ce dernier aurait été comme un arbre stérile. Mon espoir est que vous deveniez tous deux semblables à un seul arbre, et que, grâce aux ondées du nuage de tendre bonté, vous acquériez la fraîcheur et le charme, que vous fleurissiez et produisiez des fruits, afin que votre lignée se prolonge éternellement, que la gloire du très glorieux repose sur vous. Chapitre 89. Ô toi qui es ferme dans l'Alliance, j'ai bien reçu ta lettre du 2 mai 1919. Loue Dieu de t'avoir permis, au milieu des épreuves, de rester ferme et constant, de t'accrocher au royaume d'Abba. Aucune affliction ne t'ébranle, aucune calamité ne te trouble. C'est seulement lorsque l'homme est éprouvé que l'or pur se sépare nettement des scories. Les tourments sont le feu des épreuves. L'or pur y brille d'un resplendissant éclat. Les impuretés s'y consument et s'y noircissent. Tu es aujourd'hui, grâce à Dieu, ferme et constant au milieu des épreuves, et tu demeures inébranlable. Ta femme ne s'accorde pas avec toi, mais Dieu soit loué, la beauté bénie est satisfaite de toi, et t'accorde un maximum de générosité et de bénédiction. Efforce-toi cependant d'être patient envers ta femme. Peut-être sera-t-elle transformée et son cœur sera-t-il illuminé. La contribution que tu as apportée dans le domaine de l'enseignement est digne de louange et sera à jamais mentionnée dans le divin royaume. Elle est en effet source de fragrance et d'exaltation de la parole de Dieu. Chapitre 90. Ô Dieu, mon Dieu, ta servante t'invoque, elle met en toi sa confiance, elle se tourne vers toi, t'implorant de déverser sur elle ta céleste munificence, de lui révéler tes mystères spirituels et de projeter sur elle les lumières de ta divinité. Ô mon Seigneur, fais que les yeux de mon mari voient. Réjouis son cœur de la lumière qui éclaire la connaissance de ta personne. Attire son esprit vers ta lumineuse beauté. Réjouis son esprit en lui révélant tes splendeurs manifestes. Ô mon Seigneur, lève le voile qui masque son regard. Fais pleuvoir sur lui tes munificences. Enivre-le du vin de l'amour pour toi. Fais de lui l'un de tes anges, dont les pieds foulent cette terre alors que l'âme s'élève vers les cieux. Fais qu'il devienne une lampe lumineuse, diffusant la lumière de ta sagesse au milieu de ton peuple. Tu es en vérité le précieux, l'éternel bienfaisant, le généreux. Chapitre 91. Ô toi qui t'es incliné en prière devant le royaume de Dieu, tu es béni, car la beauté du visage divin a ravi ton cœur. La lumière de la sagesse intérieure l'a inondé, et en lui resplendit l'éclat du royaume. Sache que Dieu est avec toi en tout temps, qu'il te protège des mutations et des hasards de ce monde, et qu'il a fait de toi une servante en son puissant vignoble. Quant à ton mari respecté, il t'incombe de le traiter avec grande bienveillance, de considérer ses désirs et de te montrer à tout moment conciliante envers lui, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'en te dirigeant vers le royaume de Dieu, tu n'as fait que développer ta tendresse envers lui et ton amour pour Dieu, ainsi que ton souci de satisfaire ses désirs en toutes circonstances. Je prie le Tout-Puissant de te garder fermement établi en son amour et propageant à jamais, à travers toutes ses contrées, les douces brises de sainteté. Chapitre 92. Ô vous deux qui croyez en Dieu! Le Seigneur qui n'a pas d'égal a créé l'homme et la femme pour qu'ils demeurent l'un avec l'autre dans la plus intime relation et qu'ils soient semblables à une seule et même âme. Ce sont deux époux, deux amis intimes, qui devraient se préoccuper de leur bien-être réciproque. S'ils vivent de la sorte, ils passeront par ce monde dans un parfait contentement, dans le bonheur et la paix du cœur, et deviendront des objets de grâce et de faveur divine dans le royaume céleste. Mais s'ils agissent autrement, ils passeront leur existence dans une grande amertume, aspirant chaque instant à la mort, et connaîtront la honte dans l'empire des cieux. Efforcez-vous de demeurer corps et âme l'un près de l'autre, tels deux colombes dans leur nid, car ainsi vous serez bénis dans les deux mondes. Chapitre 93. Ô toi, servante de Dieu! Toute femme qui devient la servante de Dieu surpasse en gloire les impératrices du monde, car elle est liée à Dieu et sa souveraineté demeure à jamais. Alors qu'une poignée de poussière suffira à oblitérer le nom et la célébrité de ces impératrices. En d'autres termes, dès qu'elles reposent dans leur tombe, elles sont réduites à néant. Les servantes du royaume de Dieu jouissent de l'éternelle souveraineté que les âges et les générations ne peuvent atteindre. Songe combien d'impératrices ont régné et disparu depuis l'époque du Christ. Chacune d'elles était à la tête d'un pays, mais il n'en reste aucune trace à présent. Au contraire, Marie-Madeleine, qui n'était qu'une paysanne et une servante de Dieu, brille encore à l'horizon de la gloire éternelle. Efforce-toi donc de demeurer la servante de Dieu. Tu as fait l'éloge de la Convention. Celle-ci revêtira une grande importance dans l'avenir, car elle sert le divin royaume et le monde de l'humanité. Elle annonce la paix universelle et jette les fondements de l'unité de l'humanité. Elle libère les âmes des préjugés religieux, raciaux et séculiers et les rassemble à l'ombre du pavillon de Dieu, qui est d'une seule et même couleur. Ainsi, loue Dieu de t'avoir permis d'assister à une telle convention et d'écouter les enseignements divins. Chapitre 94. Ô servante de la beauté d'Abba, votre lettre m'est bien parvenue et sa lecture m'a procuré une grande joie. Dieu soit loué, les croyantes ont organisé des réunions où elles apprendront à enseigner la foi, répandront les subtils arômes des enseignements et feront des projets en vue de la formation des enfants. Ce rassemblement doit être entièrement spirituel, c'est-à-dire que les discussions doivent se limiter à établir des preuves claires et concluantes de la manifestation du soleil de vérité. En outre, les personnes présentes doivent s'intéresser à tous les moyens propres à l'éducation des fillettes, les diverses branches du savoir, la bonne conduite, un mode de vie approprié, le développement d'un caractère noble, la chasteté et la constance, la persévérance, la force, la détermination et la fermeté d'intention doivent être enseignées. On y apprendra encore l'art ménager, l'éducation des enfants et tout ce qui concerne plus particulièrement les besoins des filles, afin que celles-ci, élevées dans une citadelle de toutes les perfections et protégées par un caractère noble, puissent à leur tour, lorsqu'elles deviendront mères, éduquer leurs enfants dès le plus jeune âge à acquérir de nobles qualités et à se conduire correctement. Qu'elles étudient aussi tout ce qui contribuera à développer la santé corporelle et la forme physique, ainsi que les méthodes de prévention des maladies chez l'enfant. Lorsque les diverses matières éducatives seront ainsi planifiées, chaque enfant deviendra une plante sans égale dans les jardins du paradis d'Abba. Chapitre 95. Ô servante du Seigneur, le rassemblement spirituel que vous avez établi dans cette cité illuminée est extrêmement propice. Vous avez fait de grands progrès. Surpassant tous les autres, vous vous êtes levé pour servir le seuil sacré. Et ce faisant, vous avez mérité les célestes bienfaits. Vous devez à présent, avec une ardeur spirituelle totale, vous réunir au sein de cette lumineuse assemblée. Réciter les écrits saints et commémorer le Seigneur. Exposer ses arguments et ses preuves. Travailler à l'éducation des femmes de ce pays. Enseigner les fillettes et les enfants, afin que les mères puissent éduquer leurs petits dès la plus tendre enfance. Les former entièrement à l'acquisition d'un caractère noble et de solide qualité morale. Qu'elles puissent de toutes les vertus humaines prévenir l'apparition de comportements qui mériteraient le blâme et élever leurs enfants dans le cadre de l'éducation bahaï. Ainsi, ces jeunes enfants seront nourris à la mamelle de la connaissance de Dieu et de son amour. Ainsi se développeront-ils dans l'esprit de droiture et de dignité humaine, dans la résolution et la volonté de lutter et de persévérer. Ainsi apprendront-ils la persévérance en toutes choses, la volonté de progresser, la grandeur d'âme et la détermination, la chasteté et la pureté de vie. Ainsi pourront-ils mener à bien toutes leurs entreprises. Que les mères se le disent, tout ce qui concerne l'éducation des enfants est de la plus haute importance. Qu'elles déploient tous leurs ailes en ce domaine, car quand le bourgeon est vert et tendre, il peut prendre la forme que vous lui donnez. Il incombe donc aux mères d'élever leurs enfants comme un jardinier entretient ses jeunes plantes. Qu'elles s'emploient, nuit et jour, à inculquer à leurs enfants la foi et la certitude, la crainte de Dieu, l'amour du bien-aimé des mondes et toutes les nobles qualités et vertus. Chaque fois qu'une mère constate que son enfant se conduit bien, qu'elle lui fasse des éloges, qu'elle l'applaudisse et réjouisse son cœur, Mais si le moindre trait indésirable venait à se manifester, qu'elle conseille l'enfant et le punisse en utilisant des moyens fondés sur la raison, et même en cas de nécessité, une légère réprimande verbale. Il est toutefois inadmissible de frapper un enfant ou de l'humilier. En effet, un enfant soumis à des coups ou à des insultes aura un caractère totalement dénaturé. Chapitre 96. Ô servante du miséricordieux, rendez grâce à l'ancienne beauté de vous avoir élevée et réunie en ce siècle, le plus puissant de tous, en cet âge illuminé entre tous. En remerciement d'une telle munificence, demeurez constante et ferme dans l'alliance, et conformément aux préceptes de Dieu et à la loi sacrée, nourrissez vos enfants, dès leur plus jeune âge, au lait d'une éducation universelle. Élevez-les de telle manière que, dès leur entrée dans la vie, soit fermement ancré dans leur cœur et leur plus intime nature un mode de vie en tout point conforme aux enseignements divins. Les mères sont, en effet, les premiers éducateurs, les premiers guides de l'enfant. C'est d'elles, en vérité, que dépendent le bonheur, la grandeur future, la noblesse de conduite, le savoir et le jugement, la compréhension et la foi de leurs jeunes enfants. Chapitre 97. Certains piliers ont été établis en tant que support inébranlable de la foi de Dieu. Les plus puissants sont l'étude et l'utilisation de l'esprit, le développement de la conscience et la connaissance intime des réalités de l'univers et des mystères de Dieu Tout-Puissant. Promouvoir la connaissance est donc un devoir inéluctable imposé à chacun des amis de Dieu. Il incombe à cette assemblée spirituelle, à cette divine assemblée, de déployer le plus grand zèle dans l'éducation des enfants, afin que, dès leur plus jeune âge, ils soient formés à se conduire en bâillie et à suivre les voies de Dieu, qu'ils croissent et prospèrent, tels de jeunes plantes, dans les eaux limpides que sont les conseils et exhortations de la beauté bénie. Chapitre 98. En l'absence d'éducateurs, toutes les âmes demeureraient à l'état sauvage, et sans leurs professeurs, les enfants ne seraient que d'ignorantes créatures. C'est pourquoi, en ce cycle nouveau, l'éducation et la formation sont prescrites dans le livre de Dieu, non à titre volontaire, mais obligatoire. Ainsi est-il enjoint au père et à la mère, à titre de devoir, de déployer tous leurs efforts pour former leurs filles et leurs fils, pour les nourrir aux mamelles du savoir et les élever dans l'intimité des sciences et des arts. S'ils faisaient preuve de négligence en ce domaine, ils seraient tenus pour responsables et mériteraient des reproches en présence du Seigneur sévère. Chapitre 99. Tu m'as écrit au sujet des enfants. Ceux-ci doivent, dès leur plus jeune âge, recevoir une éducation divine et être continuellement exhortés à commémorer leur Dieu. Que l'amour pour Dieu pénètre avec le lait maternel au plus profond de leur être. Chapitre 100. Je souhaite que ces enfants reçoivent une éducation bâillie, afin qu'ils puissent progresser à la fois ici-bas et dans le royaume, et qu'ils réjouissent ton cœur. Dans le futur, on assistera à une extrême dégénérescence des mœurs. Il est donc essentiel que les enfants soient élevés selon les principes bâillis, et qu'ainsi, ils puissent trouver le bonheur à la fois en ce monde et dans l'autre. Sinon, ils seront assaillis d'afflictions et de désagréments, car le bonheur humain est fondé sur un comportement spirituel. Chapitre 101. Ô vous qui connaissez la paix de l'âme, dans les textes divins du plus saint livre, ainsi que dans d'autres tablettes, il est dit: il incombe au père et à la mère d'apprendre à leurs enfants à bien se conduire et à étudier. Autrement dit, l'étude doit atteindre le minimum requis pour qu'aucun enfant, garçon ou fille, ne demeure illettré. Si le père venait à faillir à son devoir, il devrait alors être contraint de faire face à ses responsabilités. Et s'il était incapable de s'y conformer, la Maison universelle de justice devrait prendre en main l'éducation des enfants. Un enfant ne doit en aucun cas être privé d'éducation. C'est là un des commandements rigoureux et inéluctables. dont la désobéissance provoquerait l'indignation courroucée de Dieu Tout-Puissant. Chapitre 102. Ô compagnons véritables, toute l'humanité est semblable à des enfants à l'école, dont les éducateurs prodigieux et sans pareil sont les aurores de lumière, les sources de révélation divine. À l'école des réalités, ils éduquent ses fils et ses filles conformément aux enseignements de Dieu et les élèvent dans un environnement de grâce afin qu'ils puissent progresser dans tous les domaines, manifester les dons et bénédictions du Seigneur, associer les perfections humaines, se distinguer dans toutes les formes d'entreprises humaines, qu'elles soient extérieures ou intérieures, visibles ou cachées, matérielles ou spirituelles, jusqu'à ce qu'ils fassent de ce monde mortel un gigantesque miroir reflétant cet autre monde qui ne meurt pas. Ô vous, amis de Dieu ! Parce qu'en cet âge important entre tous, le soleil de vérité s'est levé à l'apogée de l'équinoxe du printemps et a dardé ses rayons sur chaque contrée de la terre, il provoquera un tel tourbillon d'enthousiasme, dégagera de telles vibrations dans le monde de l'existence, provoquera un tel essor, jaillira dans une telle gloire lumineuse, déversera des nuages de sa grâce, de telles prolifiques ondées, fera fourmiller les champs et les plaines d'une telle diversité de plantes et de fleurs aux suaves senteurs, que cette terre, ici-bas, deviendra le royaume d'Abba, et ce bas monde, le monde d'en haut. Alors cette parcelle de lumière sera comme le vaste cercle des cieux, cette humaine demeure deviendra la cour du palais divin, et cette tache de terre glaise, la source des faveurs infinies du Seigneur des Seigneurs. C'est pourquoi, ô bien-aimés de Dieu, faites un immense effort afin que vous soyez vous-même les signes de ce progrès et de toutes ces confirmations, et que vous deveniez des foyers de bénédiction de Dieu, des sources de la lumière de son unicité, des promoteurs des bienfaits et des grâces de la vie civilisée. Soyez dans ce pays les pionniers des perfections humaines. Propagez les diverses branches du savoir. Soyez actifs et progressistes dans le domaine des inventions et des arts. Efforcez-vous de rectifier la conduite de vos semblables et cherchez à surpasser le monde entier sur le plan du caractère et de la morale. Alors que les enfants sont encore dans leur plus jeune âge, nourrissez-les à la mamelle de la grâce céleste. Élevez-les dans le berceau de toutes les excellences, dans le sein de toutes les générosités. Accordez-leur l'avantage de connaître toutes sortes de savoirs utiles. Qu'ils prennent part à la création de chaque art nouveau, rare et prodigieux. Enseignez-leur le travail et l'effort. Habituez-les aux épreuves. Apprenez-leur à consacrer leur vie aux affaires de grande importance et encouragez-les à entreprendre des études qui profiteront à l'humanité. Chapitre 103. L'éducation et la formation des enfants sont au nombre des actes les plus méritoires de l'humanité et attirent les grâces et les faveurs du très miséricordieux, car l'éducation est l'indispensable fondement de toute excellence humaine et permet à l'homme de se frayer un chemin vers les sommets de gloire éternelle. Si un enfant est formé dès son plus jeune âge, il pourra, grâce aux soins affectueux du saint jardinier, boire à la source cristalline de l'esprit et de la connaissance, tel un jeune arbre parmi les ruisseaux. Il recueillera assurément les brillants rayons du soleil de vérité, et par sa lumière et sa chaleur, continuera à croître, éternellement frais et gracieux, dans le jardin de la vie. Le guide doit donc aussi être un médecin. Il doit, tout en instruisant l'enfant, remédier à ses défauts. Il doit lui inculquer le savoir et en même temps le former à acquérir une nature spirituelle. Que l'éducateur soigne, tel un médecin, le caractère de l'enfant et ainsi guérira-t-il les maux spirituels des enfants des hommes. Si l'humanité déploie tous ses efforts pour accomplir cette tâche essentielle, elle étincellera de mille feux dans de nouvelles parures et projettera la plus belle des lumières. Alors ce monde obscur sera illuminé et cette terrestre demeure se transformera en paradis. Les démons eux-mêmes deviendront des anges, les loups seront les bergers du troupeau et les hordes de chiens sauvages des gazelles paissant dans les plaines de l'unité. Les bêtes enragées se rassembleront en paisibles troupeaux, et les oiseaux de proie, aux serres aiguisées comme des couteaux, deviendront des oiseaux aux doux gazouillis. L'intime réalité de l'homme est en effet une ligne de démarcation entre l'ombre et la lumière, un lieu où se rejoignent les deux mers. Voir Coran 25-55, 35-13, 55-19-25. Voir aussi la prière pour le mariage révélée par Abdu'l-Bahá, qui commence ainsi « Il est Dieu, ô Seigneur sans pareil, en ta toute puissante sagesse, tu as » Elle occupe le point le plus bas de l'arc descendant. Voir les leçons de Saint Jean d'Acre, page 289-290, des commentaires de Abdu'l-Bahá sur l'arc ascendant et descendant. Et par conséquent, elle est capable d'accéder à tous les stades supérieurs. Elle peut, grâce à l'éducation, acquérir toutes les perfections, mais, privée d'éducation, elle piétinera au stade le plus bas de l'imperfection. Chaque enfant est, en puissance, la lumière du monde, et dans le même temps, son obscurité. C'est pourquoi le problème de l'éducation doit être considéré comme de première importance. Dès son plus jeune âge, l'enfant doit être nourri aux mamelles de l'amour divin et dans la connaissance de Dieu, afin qu'il puisse irradier la lumière, croître en spiritualité, être imprégné de sagesse et de savoir, et acquérir les caractéristiques de la cohorte angélique. Puisque vous avez été désigné pour accomplir cette tâche sacrée, vous devez déployer tous vos efforts pour consolider la renommée de cette école à travers le monde et en faire une source d'exaltation de la parole du Seigneur. Chapitre 104. Ô bien-aimée de Dieu et servante du miséricordieux. Un grand nombre d'érudits partagent l'opinion selon laquelle la diversité des esprits et l'écart dans les degrés de perception sont dus à des différences d'éducation, de formation et de culture. Ainsi, selon eux, les esprits sont égaux à la naissance, mais la formation et l'éducation détermineront des variations dans les facultés mentales et les niveaux intellectuels, ces variations n'étant nullement inhérentes à la personnalité de chacun. Mais résultant de l'éducation, aucun d'entre nous ne posséderait une supériorité innée sur ses semblables. De la même manière, les manifestations de Dieu s'accordent à penser que l'éducation exerce la plus forte influence possible sur l'humanité. Elles affirment toutefois que les différences au niveau intellectuel sont innées. C'est là un fait évident qu'il serait vain de discuter. Nous constatons en effet que des enfants de même âge, de même nationalité, appartenant à la même race et, qui plus est, à la même famille et formés par le même éducateur, diffèrent pourtant quant à leur niveau de compréhension et d'intelligence. L'un d'eux fera de rapides progrès, un autre ne sera instruit que graduellement, et un autre encore demeurera au stade inférieur. En effet, quelle que soit la manière dont vous polissez une coquille, elle ne deviendra jamais une perle scintillante, et vous ne pourrez transformer un simple coquillage en une pierre précieuse aux rayons purs illuminant le monde. Jamais, grâce à la formation et à la culture, la coloquinte et l'arbre de Zakroum, voir Coran 37-60, le verset nous dit « En vérité, l'arbre d'Es Zakroum sera la nourriture des pêcheurs, elle bouillira dans leur ventre comme de l'eau brûlante, ne se transformeront en arbre de la bénédiction. » Voir Coran 24-35. En d'autres termes, l'éducation ne peut modifier la nature intime d'un être humain, mais elle exerce une énorme influence sur lui, et grâce à ce pouvoir, elle peut révéler chez un individu toutes les perfections et les capacités qu'il recèle en lui-même. Un grain de blé, lorsqu'il est cultivé par le fermier, produira toute une récolte, et une semence, par les soins du jardinier, se transformera en un arbre majestueux. Grâce aux efforts affectionnés d'un enseignant, les enfants de l'école primaire peuvent parvenir au plus haut degré de la réussite. En vérité, ces bienfaits peuvent contribuer à élever un enfant de peu d'importance à un trône sublime. Il est donc clairement démontré que, de par leur nature essentielle, les esprits varient quant à leurs capacités, tandis que l'éducation, elle aussi, joue un rôle important et exerce un effet déterminant sur leur développement. Chapitre 105. Quant à la différence existant entre la civilisation matérielle qui prévaut actuellement et la civilisation divine, qui sera l'un des bienfaits à attendre de la maison de justice, elle réside en ceci. La civilisation matérielle, grâce au pouvoir de lois punitives et de mesures de représailles, dissuade les hommes de commettre des actes criminels. Or, tandis que prolifèrent des lois destinées à punir les hommes et à exercer des représailles à leur encontre, il n'existe, comme vous pouvez le constater, aucune loi visant à les récompenser. Dans toutes les villes d'Europe et d'Amérique, de vastes bâtiments ont été édifiés pour servir de prison destinée aux criminels. La civilisation divine, en revanche, forme chaque membre de la société de façon à ce que nul, à l'exception d'une minorité négligeable, n'entreprenne de commettre un crime. Il existe donc une différence importante entre la prévention de la criminalité par des mesures de violence et de rétorsion et la méthode consistant à former les êtres, à les éclairer et à les spiritualiser afin que, sans avoir à craindre de punition ou de vengeance future, ils évitent de commettre tout acte criminel. Ils en arriveront, en effet, à considérer la perpétration même d'un crime comme une profonde disgrâce, et en elle-même comme la plus sévère des punitions. Ils deviendront épris de perfections humaines, et consacreront leur vie à tout ce qui apportera la lumière au monde et pourra promouvoir les qualités qui sont recevables au seuil sacré de Dieu. Voyez combien grande est la différence entre civilisation matérielle et civilisation divine. La première cherche, par la force et par des punitions, à dissuader du mal, à empêcher les hommes de nuire à la société et de commettre des crimes. Or, dans une civilisation divine, l'individu est conditionné de telle manière que, sans avoir à craindre de punition, il évite de perpétrer des crimes, considère le crime lui-même comme le plus sévère des tourments, et c'est avec joie et alacrité qu'il se met à acquérir les vertus du genre humain, à promouvoir le progrès humain et à diffuser la lumière à travers le monde. Chapitre 106. Parmi les plus nobles de tous les services que peut rendre l'homme à Dieu le Tout-Puissant, il y a l'éducation et la formation des enfants, ces jeunes plantes du paradis d'abat. Ces enfants pourront ainsi un jour, nourris par la grâce sur le chemin du salut, et telles des perles de divine munificence dans la coquille de l'éducation, parer de leurs joyaux la couronne de gloire éternelle. Il est très malaisé, toutefois, d'entreprendre un tel service, et il est plus difficile encore d'y réussir. J'espère que tu t'acquitteras correctement de cette tâche, la plus importante entre toutes, que tu remporteras la victoire et deviendra un symbole de la grâce munificente de Dieu. Que ces enfants, élevés dans le cadre des enseignements sacrés, acquerront des caractères pareils aux douces brises qui soufflent à travers les jardins du Très-Glorieux et qu'ils répandront leur fragrance de par le monde. Chapitre 107. L'espoir d'Abdu'l-Bahâ est que ces jeunes âmes, étudiant dans la classe d'approfondissement de la connaissance, seront surveillées par un éducateur qui les entraîne à aimer. Puissent-elles toutes, à travers les domaines de l'esprit, s'imprégner des mystères cachés, de manière que dans le royaume du Très-Glorieux, chacune de ces âmes, tel un rossignol doué de paroles, proclame les secrets du céleste empire, et pareil à l'amant languissant, épanche son besoin ardent et son extrême désir de rencontrer le bien-aimé. Chapitre 108. Vous devez considérer l'acquisition d'un caractère noble comme une affaire de première importance. Il incombe à chaque père et à chaque mère de conseiller leur enfant pendant une longue période et de les orienter vers les qualités qui confèrent l'honneur éternel. Encouragez-les, dès leur plus jeune âge, à prononcer des paroles de haute qualité afin que dans leurs moments de loisir, ils se mettent à converser en termes pertinents et efficaces, s'exprimant avec éloquence et clarté. Chapitre 109. Ô vous, bénéficiaires des faveurs de Dieu, le fondement inébranlable en cet âge nouveau et prodigieux est l'enseignement des sciences et des arts. Chaque enfant doit être instruit dans les arts et métiers, conformément à des textes sacrés explicites, et cela jusqu'au niveau souhaité. C'est la raison pour laquelle, dans chaque cité et dans chaque village, doivent être créés des établissements scolaires, et chaque enfant de cette cité ou de ce village doit entreprendre des études jusqu'au niveau nécessaire. En conséquence, toute âme qui offrira son aide à la réalisation de ce but sera assurément accueillie au seuil céleste et louée par l'Assemblée divine. Vous avez déployé de nombreux efforts pour atteindre ce but important entre tous. J'espère donc que vous récolterez votre récompense auprès du Seigneur aux marques et aux signes évidents, et que les faveurs de la grâce céleste se tourneront vers vous. Chapitre 110. À propos de l'organisation des écoles, les enfants devraient, dans la mesure du possible, porter le même genre de vêtements, même si le tissu en est varié. Il est préférable que le tissu lui aussi soit uniforme, mais si cette dernière condition s'avère impraticable, il n'y a là aucun mal. Les écoliers doivent être maintenus dans un état de parfaite propreté, une propreté irréprochable. L'école doit être située en un lieu où l'air est léger et pur. Les enfants doivent être soigneusement éduqués à se montrer parfaitement courtois et bien élevés. Ils doivent être constamment encouragés à atteindre tous les sommets des réalisations humaines. Ainsi, dès leur plus jeune âge, ils seront formés à poursuivre de nobles buts, à se conduire correctement, à être chastes, purs et sans tache, et apprendront à faire preuve de détermination et de fermeté d'intention en toutes choses. Qu'ils évitent les plaisanteries et le badinage pour progresser sérieusement vers les buts qu'ils poursuivent, afin qu'en toutes circonstances, ils se montrent fermes et résolus. La formation dans le domaine des mœurs et de la bonne conduite est beaucoup plus importante que l'acquisition du savoir. Un enfant propre et net, d'aspect avenant, de bon caractère et bien élevé, même s'il est ignorant, est préférable à un enfant grossier, malpropre, de mauvais caractère et pourtant déjà profondément versé dans les arts et les sciences. Cela s'explique par le fait que l'enfant qui a une bonne conduite, même s'il est ignorant, est utile à ses semblables, alors qu'un enfant au mauvais caractère est mal élevé et corrompu, alors qu'un enfant au mauvais caractère est mal élevé, est corrompu et peut nuire à autrui, même s'il a un très grand savoir. Si toutefois l'enfant est formé à se montrer à la fois instruit et bien élevé, de lumineux accomplissements résulteront. Les enfants sont pareils à une branche tendre et verte. Ils grandiront dans la direction que vous leur donnerez. Attachez le plus grand soin à leur inculquer de nobles idéaux et des buts élevés, afin que parvenus à leur majorité, ils projettent leurs rayons sur le monde, tels de lumineuses lampes, et ne soient pas souillés par les désirs et les passions à la manière des animaux, inattentifs et inconscients, mais qu'ils mettent plutôt tout leur cœur à parvenir à l'honneur éternel et à acquérir toutes les perfections du genre humain. Chapitre 111. L'ignorance est la cause première des méfaits. C'est la raison pour laquelle nous devons nous tenir fermement aux instruments de la perception et du savoir. L'intégrité morale doit être enseignée. La lumière doit être propagée, afin que, à l'école de l'humanité, tous puissent acquérir les caractéristiques célestes de l'esprit et constater par eux-mêmes que sans nul doute il n'est pas d'enfer plus terrifiant ni d'abîme plus ardent que de posséder un tempérament mauvais et corrompu, qu'il n'est pas de fosse plus ténébreuse ni de tourment plus abhorré que de manifester une nature condamnable. Chaque individu doit recevoir une éducation d'un niveau tel qu'il aimerait mieux avoir la gorge tranchée plutôt que de proférer un mensonge, et trouverait plus souhaitable d'être tué par une épée ou transpercé par une lance plutôt que de se livrer à la calomnie ou de se laisser emporter par la colère. Ainsi fera-t-on naître le sens de la dignité et de la fierté humaine, afin de consumer la moisson des appétits charnels. Alors chacun d'entre les bien-aimés de Dieu resplendira, telle une brillante lune, grâce à ses qualités spirituelles, et les relations de chacun avec le seuil sacré du Seigneur ne seront pas illusoires, mais bien réelles et saines, comme sont réels non pas quelque embellissement ornant la façade, mais les fondations mêmes de la construction. En conséquence, l'école des enfants doit être un lieu d'ordre et de discipline extrême. L'instruction doit être complète de sorte que les caractères puissent s'affiner et se rectifier. Ainsi, dès le plus jeune âge, au tréfonds de l'être intime de chaque enfant, sera déposée la fondation divine et érigée la structure de sainteté. Sachez qu'instruire l'enfant, faire en sorte que son caractère s'affine et se rectifie, encourager l'enfant et faire en sorte qu'il montre de l'enthousiasme, est une question de la plus haute importance, car tels sont les principes de base édictés par Dieu. Ainsi, si Dieu le veut, ces écoles spirituelles formeront des enfants aux esprits éclairés, parés de toutes les plus nobles vertus du genre humain, et qui diffuseront leur lumière non seulement à travers la Perse, mais tout autour du globe. Une fois le stade de la puberté franchi, il est extrêmement difficile d'enseigner un être et d'affiner son caractère, car à ce stade, comme l'expérience l'a montré, les plus grands efforts visant à modifier certains penchants s'avèrent vains. Peut-être l'adolescent fera-t-il au début quelques progrès, mais au bout de quelques jours, il l'oubliera et s'en retournera à sa condition antérieure à ses habitudes premières. C'est donc lors de la prime enfance qu'une base solide doit être jetée. Tant que la branche est verte et tendre, elle peut être aisément rectifiée. Nous voulons dire par là que les qualités spirituelles constituent le fondement primordial et divin, qu'elles sont la parure de l'essence réelle de l'homme, et que la connaissance est source de progrès humain. Les bien-aimés de Dieu doivent attacher une grande importance à ce problème et le résoudre avec zèle et enthousiasme. Chapitre 112. Au sein de cette cause sacrée, le sort des orphelins est de la plus haute importance. La plus vive considération doit être manifestée à l'égard des orphelins. Ceux-ci doivent être instruits, formés et éduqués. Les enseignements de Baha'u'llah doivent, en particulier, leur être dispensés par tous les moyens et aussi longtemps que possible. Je supplie Dieu que tu puisses devenir un parent bienveillant pour les enfants orphelins et que tu les nourrisses des fragrances de l'Esprit-Saint afin que, parvenus à la maturité, ils soient de fidèles serviteurs de l'humanité et tels des lampes brillant au sein de la communauté humaine. Chapitre 113. Ô servante de Dieu, les divins enseignements et de judicieux conseils doivent être dispensés aux mères. Elles doivent être encouragées et incitées à former leurs enfants, car la mère est le premier éducateur de l'enfant. C'est elle qui, dès la naissance, allait le nourrisson aux mamelles de la foi et de la loi de Dieu, afin que l'amour divin puisse pénétrer en lui avec le lait maternel et demeurer avec lui jusqu'à son dernier souffle. Tant que la mère faillit à la formation de ses enfants, tant qu'elle ne leur inculque pas un mode de vie approprié, l'éducation reçue ultérieurement ne produira pas son plein effet. Il incombe aux assemblées spirituelles de fournir aux mères un programme bien structuré en vue de l'éducation des enfants, leur montrant comment, dès son plus jeune âge, l'enfant doit être surveillé et instruit. Ces instructions doivent être dispensées à toutes les mères, afin qu'elles servent de guide. Ainsi, chaque mère formera et élèvera ses enfants conformément aux enseignements de Baha'u'llah. Ainsi, ces jeunes plantes du jardin de l'amour divin croîtront et fleuriront sous les chauds rayons du soleil de vérité, animées par le souffle léger des brises printanières du ciel et guidées par la main maternelle. Ainsi, au paradis d'Abba, chacune d'elles deviendra un arbre portant ses fruits et chacune, en cette saison nouvelle et prodigieuse, grâce aux générosités du printemps, sera parée de toutes les beautés et de toutes les grâces. Chapitre 114. Ô vous, mère aimante, sachez qu'aux yeux de Dieu, le meilleur moyen de l'adorer est d'éduquer les enfants et de les former à acquérir toutes les perfections humaines. Aucune action ne saurait être plus noble que celle-là. Chapitre 115. Ô vous deux, bien-aimées servantes de Dieu, quelles que soient les paroles que profère un homme, il doit les confirmer par ses actes. S'il prétend être un croyant, qu'il agisse alors en conformité avec les préceptes du royaume d'Abba. Loué soit Dieu, vous avez prouvé par vos actes la vérité de vos paroles, et gagnez les confirmations du Seigneur Dieu. Chaque jour, aux premières lueurs de l'aube, vous rassemblez les enfants Bahaï et leur enseignez les entretiens à cœur ouvert et les prières. C'est là un acte éminemment digne de louange, qui réjouit le cœur des enfants. Que chaque matin, ils se tournent vers le royaume, qu'ils mentionnent le Seigneur, exaltent son nom, et de leur voix la plus douce, qu'ils chantent et récitent les versets sacrés. Ces enfants sont pareils à de jeunes plantes. Leur enseigner les prières, c'est comme faire descendre sur eux la pluie pour leur permettre de venir doux et purs, et que les brises suaves de l'amour de Dieu soufflent sur eux, les faisant tressaillir de joie. La béatitude vous attend, ainsi qu'un refuge plein d'attrait. Chapitre 116. Ô toi, fille du royaume, j'ai bien reçu tes lettres dans lesquelles tu m'informes de l'ascension de ta mère vers l'invisible royaume, te laissant dans la solitude. Ton désir est de servir ton père, qui t'est cher, et aussi le royaume de Dieu. Mais tu es perplexe, ne sachant vers laquelle de ces tâches tu devrais te tourner. Engage-toi, assurément, à servir ton père, et chaque fois que tu en trouveras le temps, répands également les divines fragrances. Chapitre 117. Ô cher ami d'Abdul-Baha, sois le fils de ton père et le fruit de cet arbre. Sois un fils né de son âme et de son cœur, pas seulement de l'eau et de l'argile. Un fils véritable, c'est celui qui est issu de la partie spirituelle de l'homme. Je prie Dieu que tu puisses être, à tout moment, confirmé et affermi. Chapitre 118. Ô vous, jeunes enfants Bahaï, vous qui cherchez la compréhension et la connaissance véritable. De nombreux aspects permettent de distinguer un être humain d'un animal. C'est, en premier lieu, le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, qu'il ressemble à la lumière céleste. Comme Dieu le dit dans la Torah, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Cette image divine témoigne de toutes les qualités de perfection dont les lumières, émanant du soleil de vérité, éclairent les réalités humaines et figurent parmi les attributs d'excellence résidant au cœur de la sagesse et de la connaissance. C'est pourquoi vous devez faire un immense effort, lutter nuit et jour, sans trêve et sans repos, pour acquérir une part abondante de toutes les sciences et de tous les arts, afin que l'image divine, qui brille au soleil de vérité, illumine le miroir des cœurs des hommes. C'est le désir ardent d'Abdul-Baha que chacun d'entre vous soit considéré comme le plus éminent des professeurs au sein des académies, et qu'à l'école des significations spirituelles, chacun devienne un guide en matière de sagesse. Chapitre 119. Il incombe aux enfants Bahaï de surpasser les autres enfants dans l'acquisition des sciences et des arts, car ils ont été bercés dans la grâce de Dieu. Ce que d'autres apprennent en une année, que les enfants Bahaï l'apprennent en un mois. Le cœur d'Abdul-Baha languit en son amour de constater que tous les jeunes Bahaï, sans exception, sont connus de par le monde pour leurs réalisations sur le plan intellectuel. Il est hors de doute qu'ils déploieront tous leurs efforts, leur énergie et leur sens de l'honneur afin d'assimiler les sciences et les arts.